la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Rendez-vous aujourd'hui pour le début de la saison 2024-2025. Mais à la Maison des littératures à voix haute, on fait des saisons par trimestre ou par semestre. Donc nous en sommes à la saison 20 qui ira de septembre ou de octobre, disons, à décembre 2024. Et pour nous en parler, notre fidèle Denis Lanois. Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors une petite plaquette bien sympathique, toujours bien illustrée par Stella. Déjà 20 saisons et j'aime bien le sous-titre enfin qui est en bas de la plaquette. Vous continuez à rigoler les gars comme si c'était pas la grande poésie ça.
Oui alors exactement c'est de la grande poésie.
Ah oui ça. Vous le dites beaucoup mieux que moi. On voit que vous êtes un lecteur à voix haute et pas moi. Donc merci à vous Denis, à toute votre équipe qui contribue à ce lieu qui est devenu maintenant une référence. Vous devez avoir du mal, la 20e saison, de trouver à qui vous dédiez cette saison. Non, vous avez un portefeuille énorme.
Alors d'abord, la dédicace de saison, c'est toujours des écrivains ou des écrivaines décédées. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la littérature, donc, donc on n'a pas trop de mal. Alors pour cette saison, c'est un peu particulier parce que c'est un poète qui est décédé en novembre dernier, novembre 2023, et on avait le projet de l'inviter prochainement, et bon, c'était un peu brutal, et donc on a décidé pour ça de l'honorer, parce que ça aurait été à nous inviter sans doute la saison prochaine, puisqu'on fêtera nos 10 ans d'existence au mois d'avril prochain.
20 saisons et 10 ans d'existence. Vous n'avez même pas dit le nom de ce poète belge.
Jean-Pierre Verheyen.
Donc, nous illustrerons par une musique qui n'est pas belge, mais qui est une musique de carnaval. Et les Belges, on sait, aiment bien les carnavals. Donc, le carnaval, c'est une poésie, c'est une forme de poésie. La rigolade aussi.
La rigolade, c'est une forme de poésie. Oui. Et surtout, avec Jean-Pierre Verheyen, c'est vraiment de la grande rigolade, parce que c'est toujours un jeu sur le langage. Et c'est pas étonnant que ça soit un Belge, parce que les Belges ont un regard sur la langue française qui est forcément un regard périphérique.
Et le regard, une frontière.
Et le regard périphérique est toujours très passionnant, parce que c'est un peu le regard marginal, et c'est comme ça que les poètes inventent la langue nouvelle. C'est parce qu'il y a de la marginalité qui transperce le langage habituel. Et j'aime bien, par exemple, juste ce jeu sur le langage. Un de ses recueils s'appelle « L'idiot du vieil âge ».
Et donc, c'est un détournement.
C'est un détournement permanent. Et,
l'idiot du vieil âge. Je vois aussi d'autres poètes bainque-oui, poètes bainque-non. Ouais. Donc... Arthur Rimbure. Oui, on n'est pas sérieux quand on a 117 ans. Donc, vous avez rendu, on n'a pas pu se caler avant la soirée du jeudi 3 octobre à 19h, qui était l'agacerie littéraire de rentrée. Et comme toujours, du monde, c'est vous qui avez lu, Denis. Mais sinon, ce sont les invités, quand ils sont là, bien évidemment, ou Bruno Paterno. Et c'est une soirée qui a compté, puis qui fait découvrir... Je ne sais pas, moi personnellement, je ne connaissais pas, j'ose l'avouer, mais c'est toujours une façon de découvrir. Oui, je vois de l'humour à l'humour, oui, en effet. Hein, c'est...
Oui, et puis c'est vraiment c'est un poète de la langue exacerbée. C'est de la langue à profusion.
Ouais, donc ce que vous aimez, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, donc cette soirée, elle est déjà passée. Et après, on rappelle, c'est toujours les jeudis,
je pense. À 19h.
À 19h. Donc la Maison des littératures à voix haute, je pense que tout le monde connaît maintenant, c'est au 26 rue de la République. Pour réserver, parce que la salle est tout de même petite, il faut par mail taper réservation.fantaisie.littéraire@gmail.com. Il y a un téléphone 06 17 53 02 60. Alors, nous passons au 10 octobre avec une poétesse, Estelle Fanzi, qui... Alors, vous connaissez tout ce monde-là. Quand vous les faites venir, c'est que vous les avez déjà rencontrés ou c'est juste une connaissance?
Alors, déjà, la première rencontre avec tous ces poètes, c'est que... Poètes ou romanciers, c'est que je les ai lus.
Oui, ça semble évident.
Et c'est une rencontre aussi, toujours. À force d'arpenter et de côtoyer la littérature, forcément, y a des choses qui me happent plus que d'autres. Après, oui, c'est de la mise en réseau, c'est des rencontres, c'est toujours des rencontres. Donc oui, il faut toujours s'efforcer de toute façon...
D'ouvrir son horizon.
D'ouvrir son horizon et puis de proposer au public des choses qui soient totalement... totalement diverses. Je cherche pas la contradiction pour la contradiction, mais par exemple, entre Jean-Pierre Verheghen et Estelle Fanzi, l'invité du jeudi 10 octobre, c'est deux mondes radicalement différents. Autant Verheghen, c'est du souffle qui se renouvelle en permanence et on se demande quand il va être épuisé. Et autant Estelle Fanzi, c'est de la poésie extrêmement minimaliste, ramassée sur elle-même, très simple, où il n'y a pas de jeu de mots comme chez Verheghen. C'est vraiment, presque, on dirait presque l'exact contraire, c'est-à-dire quelque chose qui est torrentueux d'un côté et qui se transforme en un fleuve puissant, comme le Rhône, par exemple. Et Estelle Fanzi, ça serait plutôt un petit ruisseau paisible qui traverse le bocage.
Ouais. Mais chacun y trouve son compte.
Et chacun y trouve son compte.
C'est aussi pour nous perturber, ou sinon nous perturber, tout au moins nous faire changer de vision.
Alors les deux, par contre, ont vraiment un point commun, c'est que ça parle de l'intime.
Oui. Et je vois qu'elle est enseignante en lettres, en réseau d'éducation prioritaire. Donc... elle essaye tout de même d'être accessible aux jeunes, parce qu'on se pose souvent la question comment les jeunes peuvent être sensibles à la poésie. Et là, je pense que son enseignement, il contribue.
Oui, alors moi, je n'ai pas assisté à un de ses cours, donc je ne peux pas vous...
Non, mais vous avez lu ses poésies.
J'ai lu ses poésies. Alors, pour moi-même, avoir travaillé avec des classes en réseau d'éducation prioritaire et des classes SECPA, là où elle enseigne... je sais que ces jeunes-là sont extrêmement sensibles à la poésie. Oui. Extrêmement. Oui. Récemment, au Collège Condorcet, j'ai mené une expérience avec une classe de 4e SECPA. C'est un travail vraiment qui a été d'une grande richesse. Je les ai fait écrire. Oui. Ils se sont produits à la Maison des Littératures. Et c'était des moments très intenses et très forts d'inventivité, d'acceptation aussi d'avoir une langue qui diffère de celle des autres, qui n'est pas la langue, qui n'est pas la langue officielle, qui n'est pas la langue dominante, mais cette petite langue, cette petite poésie que chacun a en soi. Et là, ça, quand d'un seul coup, ces adolescents soi-disant en difficulté,
se rendent compte qu'ils ont
la capacité d'écrire. C'est assez prodigieux.
Ouais. Donc, on pensera à tout cela quand on écoute vos invités. La poésie n'est pas réservée à des habitués, à une élite, à des
non,
lecteurs.
Pas du tout. Pas du
c'est
tout,
pour
pas
tout
du
le tout. Monde.
Non, je pense par exemple à Estelle Fanzi, son recueil Une saison fragile. Ça parle de la disparition de ses parents. Tout le monde au détour d'un poème est capable d'éprouver une émotion comparable à celle des poètes.
Non, mais je pense que l'idée qu'ils peuvent, hein, parce qu'il y a beaucoup de mépris, et là ils peuvent, ils sont capables. C'est pas réservé qu'aux autres. Et puis ça leur ouvre. On parle beaucoup d'ouvrir un univers, mais ça c'est important. Alors, le 17 octobre, 19h toujours, Fantaisie littéraire, Jean-Paul Honoré. Donc, il sera là.
Absolument.
C'est lui qui lit ses textes. Là, vous êtes en...
Ça sera un mix, ça sera entre lui et nous. Alors, Jean-Paul Honoré, là, c'est un romancier, enfin, qui a écrit de la poésie aussi. C'est un oulipien, il fait partie du groupe Oulipo, avec Jacques Jouet. Et d'ailleurs, il accompagne Jacques Jouet sur certains des projets de Jacques Jouet. Par exemple, sur le fait d'envoyer un poème par jour à quelqu'un. Donc, tous les jours, il écrit un poème qu'il envoie à quelqu'un dont qu'il ne connaît pas.
Qu'il ne connaît pas.
C'est le hasard, le hasard de l'annuaire qui lui permet d'envoyer. Alors, chacun sa technique. Jacques Jouet, par exemple, procède par épuisement. C'est-à-dire que c'est le projet un peu fou de s'installer quelque part et d'envoyer un poème à tous les habitants de ce village ou de cette ville.
Ah ouais. Et donc, il connaît les réactions ?
Certains répondent, oui, c'est vrai. Certains répondent. Moi-même, j'ai reçu un poème de Jacques Jouet un jour, parce qu'évidemment, il met dans la combine des gens.
Et alors, comment vous avez réagi ?
Je lui ai répondu. Voilà, je lui ai répondu.
Mais je sais pas
par un poème.
Je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui répondent. Ça serait intéressant d'avoir une petite caméra, de voir comment les gens réagissent.
Alors, Jean-Paul Honoré, c'est quelqu'un qui a écrit deux très beaux romans dernièrement et il viendra nous parler des deux. Et il y en a un, vraiment, c'est très très beau. Il s'appelle Ponté, ce roman. Et il a, alors, comme c'était un oulipien, il s'impose des consignes pour écrire. Et la consigne, là, c'était de s'embarquer sur un bateau cargo. Vous savez que sur les bateaux cargo, il y a toujours une cabine disponible, ou deux parfois, pour des gens qui souhaitent faire le voyage par mer, pas par avion. Donc, il est parti de Chine jusqu'au Havre.
Ah oui, c'est pas une petite traversée.
Et
hein.
Il raconte ce qui se passe pendant toute la traversée. Et alors, c'est passionnant parce que...
petits détails, mais en même temps...
Oui, parce que ça ne peut être que ça. Parce que la monotonie du voyage sur l'eau est quelque chose
Ça prend combien de temps ?
Cinq semaines.
Oui, j'allais dire deux mois.
Quelque chose d'assez terrifiant. Et en fait, il était à l'écoute du moindre petit bruit, du moindre petit bruit... mécanique qu'on entend quand on traverse un pont sur un navire.
Je pense que la météo, il y a peut-être eu des tempêtes.
Toutes ces choses.
Donc on a l'impression d'être sur le cargo.
Oui. Et puis à la fois avec des réflexions qui lui sont personnelles, qui viennent là au milieu des descriptions. Donc c'est tout à fait.
Ah oui, parce qu'il avait du temps.
Quand on a du temps, on pense,
on réfléchit. Donc Ponté, vous dites. Et aux éditions Arléa. Et le deuxième, c'est Lieu de justice.
Oui, alors ça, c'est sur le nouveau palais de justice de Paris. Il a assisté à la fois aux travaux et aux premiers mois de vie de ce bâtiment construit par Renzo Piano. Donc il en fait la description à la fois très technique et très détaillé, et puis comment les gens commencent à s'emparer du bâtiment et à vivre, et les avocats, les témoins, les procureurs, etc. Là aussi c'est pareil, c'est pratique ça, il pratique, on pourrait dire, l'immersion, quoi, d'être immergé dans un univers et d'essayer de le capter, de l'écrire.
Mais on lui posera certainement la question... comment il choisit ses sujets, parce que ça peut être intéressant, parce qu'il sait que ça lui prend beaucoup de temps aussi, c'est sur une immersion sur un...
Oui, alors il est retraité, il était professeur à l'université de Marne-la-Vallée, donc
ça
ne diminue pas son mérite, mais il a du temps pour pouvoir se consacrer à l'écriture.
Et son écriture, elle est... comme vous disiez, la différence entre Pierre Verhaeghen et Estelle Fanzi, là, c'est un style assez froid, assez simple.
Oui, c'est très simple et je dirais presque technique.
Oui, alors, entre l'architecture et les bateaux, peut-être qu'on a des termes qu'on ne comprend pas, peut-être. Mais écoutez, on parlait justement de cette différence de style. Vous avez choisi, en hommage à Pierre Verhaeghen, une musique de carnaval. Et c'est bien, parce que la poésie, c'est aussi de la joie, vous l'avez dit.
Oui. Et puis c'est aussi un sacré foutoir, parfois. Et le carnaval est un sacré foutoir, mais bon, à Nîmes, on connaît ça, parce que la feria, ce n'est rien d'autre qu'une déclinaison...
d'un carnaval... Vous aviez hésité entre les Gilles de Binche et cette musique de carnaval, et moi, je vous ai cité le film Carnaval. Oui. Donc, voilà. Une musique de carnaval, ce qui peut surprendre... certains pour une maison des littératures à voix haute. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Denis Lannoy pour nous présenter la suite de cette saison 20 de la Maison Théâtre des Littératures à voix haute. Vous avez déjà parlé des 3 soirées d'octobre. Là, nous allons parler des 4 soirées de novembre, d'une de décembre, plus le marché de Noël. Et nous commençons le 7 novembre, après les vacances, avec une agacerie littéraire, Guy de Maupassant, lecture de Vive Mustapha. Donc, c'est vous.
C'est moi, qui vais lire, oui. C'est moi qui vais lire ce texte qui, en fait, est composé de plusieurs articles écrits pour la première volée d'articles en 1881 et la seconde en 1888 pour un journal qui s'appelait à l'époque Le Gaulois. Et Guy de Maupassant avait été envoyé en mission, en quelque sorte, comme pour faire un reportage journalistique. En Algérie et en Tunisie. Mmh. Pour 1888, c'est la Tunisie. Et
c'est la pleine colonisation.
C'est, oui, alors pour l'Algérie, on peut dire que la tragédie de la colonisation avait déjà 50 ans, parce que 1830, ça avait commencé. Pour la Tunisie, c'est différent. Mais en tous les cas, ce qui est absolument étonnant dans ce document, parce qu'il s'agit vraiment d'un document. Guy de Maupassant il est époustouflé par la beauté des paysages algériens et tunisiens, il est époustouflé par la générosité des gens, etc. Et il commence à mettre en doute, en 1881 et 1888,
la colonisation
et surtout le discours du bienfait de la colonisation. Oui,
c'est-à-dire que c'est un peuple sous-développé.
Et il commence à en étant, alors qu'il n'était pas du tout arrivé dans ce but, il découvre, en fait, on peut dire, l'aspect négatif de la colonisation. Et il dit, il est bouleversé de constater que ça va pas, quoi. Il le dit, hein. Il y a quelques phrases dans, je vais en citer une, par exemple. Il dit dans un des articles, tout ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays. Donc, il pose des questions.
Et il n'est pas entendu, bien évidemment.
Je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'il y a quand même des gens...
Non, mais je parlais au niveau des politiciens, au niveau...
Oui, à ce moment-là, c'était le moment vraiment, vraiment outrageusement... Il a assisté à des combats entre ce qu'on appelait les indigènes et les militaires qui étaient en train de coloniser. Et il a cette phrase terrible, son texte. Commence, le premier article commence par « Il est bien difficile vraiment de se fier aux renseignements que nous fournit la presse française. »
Déjà, la censure.
C'est-à-dire qu'en partageant le quotidien, à la fois des colons et à la fois des Algériens, il a constaté qu'il y avait un problème majeur. Et entre autres, ce qui est assez intéressant, il parle de l'architecture. Et il dit « L'architecture, elle aussi, est un contresens. » Ce que nous imposons, ne correspond pas du tout.
Donc ça peut être très intéressant. Alors vous avez choisi cela, je ne vais pas dire par hasard, mais on a l'impression d'une programmation un peu éclectique là.
Éclectique. Moi, je ne suis pas si persuadé que ça.
Non, mais
parce
je vous
que...
tends la perche pour nous expliquer.
Parce que c'est bon. Moi, la programmation, elle était faite depuis le mois avril-mai dernier.
Il y a eu des événements politiques,
dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin bon, je ne vais pas refaire le film de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu à un moment donné la possibilité d'avoir réellement une majorité Rassemblement national d'extrême droite dans ce pays. Et donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire la préface du livret tant que
on ne connaissait pas
le résultat. Donc, j'ai repoussé l'écriture de cette préface habituellement, que je ferai en général au mois de juin. Ben, je l'ai repoussé après le second tour des élections législatives. Je ne pensais pas que ça allait encore durer sous une autre forme un peu grotesque au mois de juillet, au mois d'août et jusqu'à
avant-hier,
au mois de septembre.
La nomination du gouvernement.
Mais en tous les cas, je me suis rendu compte que cette programmation avait une cohérence.
Ah, d'accord.
Et que la cohérence, c'était d'affirmer bah justement un certain... De dire, là, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réécrire l'histoire. Il y a des gens qui veulent nous imposer un récit national qui ne correspond pas au réel.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que j'avais fait des choix, comme celui de Guy de Maupassant, par exemple, de dire non, 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 écoutez le réel. Guy de Maupassant a écrit le réel
en
1881. Et c'est déjà... Ça va contre ce récit national qu'on veut nous imposer. Même chose avec René Maran, dont on parlera dans quelques temps. Même chose avec Thomas McGrath,
dont on va parler maintenant. Oui, parce qu'il va falloir se dépêcher, parce que le temps passe et on a encore 4 soirées à parler. Donc, désolée si je vous ai vexé en disant qu'elle était éclectique. Mais c'est vrai que je comprends mieux, encore que c'est toujours très varié. Hein, je veux dire, vous l'avez dit au début, toujours faire découvrir. Alors, le 14 novembre, c'est La vie et l'œuvre poétique de Thomas McGrath, présenté par Vincent Dussol, qui est traducteur.
Oui, c'est le traducteur de Thomas McGrath, qui est un poète qui est décédé, hein, un poète américain, puisque il est né au tout début, mais dans les années 10 ou 20 du 20e siècle, et c'est un grand poète américain. C'est la première fois qu'il est traduit en France. Et c'est un poète qui a vécu jusque dans les années 80 et extrêmement critique envers le système économique américain et le capitalisme.
Oui, c'est pour ça qu'il a été visé par le McCarthyisme.
Et il a été visé par le McCarthyisme. Et c'est vraiment un écrivain de tout premier ordre, un poète de tout premier ordre, qui à la fois est capable de s'inspirer de philosophes comme Karl Marx ou Walter Benjamin, et également de grands écrivains comme James Joyce, Rabelais, enfin c'est vraiment...
Donc à travers lui, on redécouvre de nombreux écrivains.
Et puis on redécouvre sans aucun doute aussi une autre histoire des États-Unis.
Toujours,
Et une histoire plus ancrée dans le réel que celle qu'on veut bien nous vendre à Hollywood.
Et bien, je lisais justement un article en disant que 25 des États américains ont des noms d'origine indienne.
Oui, ben oui.
Ça, je ne le savais pas. Et donc, c'est alors qu'on les a massacrés, qu'il y a un véritable génocide. 25 des États ont des noms. Donc, là aussi, on ne peut pas réécrire toute l'histoire. Hein, ou alors, il faudrait changer les noms des États. Le jeudi 21 novembre à 19h toujours, là c'est un auteur antillais, 1887-1960, René Maran. Donc là aussi je pense qu'il parle beaucoup de colonisation ou de véritable scandale.
Oui, c'est ça, parce qu'il est auteur antillais mais en poste pour l'État français en Afrique. Et donc, il découvre aussi une autre réalité de la négritude qui n'était pas celle à laquelle il était habitué. Et donc, ça l'a... Il a vu le versant qu'il ignorait de la colonisation. Lui, il avait le versant des esclaves, ceux qui s'étaient retrouvés aux Antilles en étant devenus esclaves, mais il n'avait pas ce rapport sur les origines en fait. Et ça l'a évidemment beaucoup bouleversé. Il était en plus là pour au nom de l'État français. Mais il n'empêche que il s'est mis à écrire des romans, et en 1921 il obtient le prix Goncourt. C'est le premier prix Goncourt attribué à un auteur noir en 1921. C'est un scandale retentissant en France. C'est alors évidemment il a beaucoup de défenseurs, hein, parce que c'est un grand écrivain.
S'appelle
Batouala. Il a été réédité en 2021 pour le centenaire de ce prix Goncourt. C'est un grand roman qui pose la question de la décolonisation. D'accord. Dès 1921.
Donc on sent mieux la cohérence de votre programme.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et
il nous en reste deux.
Hemingway a été un de ceux qui ont révélé René Maran au monde.
Donc d'accord. Et je vois que c'est Amin Maalouf qui avait préfacé la réédition de 2021.
C'est ça.
Donc, bon, c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'à travers un auteur, vos lectures ont... On a un panel d'écrivains. Alors, on bouscule un petit peu. Jeudi 28 novembre, Arnaud Bertina. Il est de quelle nationalité ?
Alors, Arnaud Bertina est un écrivain français.
Français.
Oui, tout à fait. Qui vit à Paris, qui enseigne à Paris.
Ah, d'accord.
Qui est un des écrivains, sans doute, aujourd'hui, avec un engagement très fort en tant qu'auteur. Et il le dit lui-même, hein, il a la volonté de ne pas laisser la narration du monde à celles et ceux qu'il dirige.
Oui,
je vous ai dit que elle était très cohérente.
Je ferai l'introduction de l'émission maintenant, contre les récits nationaux, contre la réécriture de l'histoire. Alors on termine avec la lecture de Colette, ça peut surprendre, c'est Bruno Paternot que j'ai reçu la semaine dernière, qui lira les textes des Claudines, et les Claudines, c'est la vie d'une rebelle, hein, donc
c'est ça
fait partie aussi des thèmes. Et puis, désolée de devoir accélérer, on conclut avec ce marché de Noël avec des maisons d'édition gardoises et quelques artistes, ça sera au Prolet, le samedi 14 décembre de 10 à 18 heures. Et là, vous annoncez le lauréat du prix, que là non plus je ne connaissais pas, le prix Bernard Verkhaftig.
C'est ça. Alors Bernard Verkhaftig, c'est un poète du XXe siècle, un poète trop peu reconnu. Mais il n'empêche qu'il avait quand même, sa famille a eu la volonté de décerner un prix à de jeunes poètes qui n'ont pas encore été édités. Ouais. Et là, ça sera la remise du quatrième prix. Et le jury de ce prix se réunit toujours à la Maison Théâtre des Littératures pour décider qui sera lauréate ou lauréat de ce prix. Et donc, c'était tout à fait bien de pouvoir dire, on va faire la remise des prix le jour du marché de Noël.
C'est très bien.
Et avec lecture du recueil choisi.
Du recueil. Alors, je n'ai pas le temps de rappeler le numéro de téléphone, le mail, mais tout le monde le sait. Et puis, on a cette petite brochure verte, rouge, avec de l'espoir. Il y a tout de même un nuage, il y a tout de même un volcan. Merci à vous, Denis, et à l'an prochain.
Oui, pour le 20e anniversaire. Et là, il y aura une saison...
extraordinaire.
Ouais, enfin, une belle saison.
Merci, Denis.